Chapitre de l'histoire tchèque. David, allons.
Temps et espace dans un régime autoritaire, le cas de la Tchécoslovaquie, tel est le titre de la thèse sur laquelle travaille l'historien Roman Krakowski, sous la direction d'Antoine Marès et de Pascal Horry à la Sorbonne. La soutenance est prévue pour le printemps, et ce travail novateur nous permettra sans doute de mieux comprendre les logiques sociales, culturelles et symboliques propres à la période communiste. Édifiée en 1955 pour être détruite 7 ans plus tard, la célèbre statue de Staline sur la colline de Letna dominait littéralement le centre-ville de Prague. À la manière du Christ Pantocrator des églises russes, le dirigeant soviétique englobait d'un seul coup d'œil la capitale tchécoslovaque. Dans ce symbole facile, il faut pourtant lire un dogme érigé en projet politique, celui du contrôle absolu du parti sur la société et à commencer par l'espace public. Lorsque dans les années 1960 à Prague, Milan Knijak organise des happenings en pleine rue, le côté subversif ne provient pas du contenu des actions, généralement indéchiffrables. Ce qui choque le pouvoir, c'est cette réappropriation de l'espace public, monopole jusqu'alors jalousement gardé. D'autres ruptures, en apparence anodines, sont lourdes de sens durant la décennie 1960. Reconquête spontanée d'une forme d'association avec les troupes de théâtre, par exemple, succès du rock et des modes occidentales auprès de la jeunesse. Sur les résistances de la société au régime, tout ceci en dit autant, sinon plus, que les débats au sommet entre réformistes et conservateurs. Régime totalitaire, la Tchécoslovaquie communiste entend changer la société. C'est donc dans le rapport entre le pouvoir et la société que résident les grands défrichements à effectuer pour les historiens de l'Europe centrale. Une histoire totale qui fait appel aux politiques symboliques et aux aspects culturels et sociaux. À travers un angle original, Roman Krakowski finit actuellement une thèse qui devrait renouveler les cadres d'analyse du régime totalitaire. Depuis Paris, où il réside, Roman Krakowski a répondu à nos questions.
Ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est la manière dont les régimes autoritaires essayent d'avoir le contrôle sur la société et comment, à travers le contrôle de certains de ces paramètres, ils essayent de transmettre un message, d'éduquer les populations, de former une nouvelle société. Et donc j'ai pris l'exemple des régimes communistes avec la Tchécoslovaquie pour travailler sur le contrôle que les régimes communistes exercent sur le paramètre espace et temps. Parce que ce sont deux paramètres qui nous permettent à chacun de s'orienter dans nos activités quotidiennes en travaillant sur le contrôle de l'espace et du temps par le régime communiste. Je peux essayer de réfléchir sur la manière dont ce régime essaye de façonner, de transformer la société.
Oui, et éventuellement, bien sûr, sur les résultats, même si j'imagine que ça, c'est un peu plus un peu moins tangible à analyser.
C'est difficile, mais je pense que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir comment quel était le projet initial, mais surtout quelle était son application, comment les populations ont réagi par rapport à ça. Parce que l'histoire, c'est d'abord l'histoire des hommes et des femmes, et donc j'essaye de voir comment la société a réagi à cette pression.
Quels sont les grands cadres temporels donc qui rythment le quotidien dans la Tchécoslovaquie communiste?
Je pense qu'il y a plusieurs choses. Dans le domaine du temps, il y a le temps cyclique. Donc chaque société est organisée selon les cycles. Et donc un des cycles, par exemple, peut être le cycle hebdomadaire qui a été installé au Moyen-Âge, mm-hmm. un cycle religieux complètement arbitraire, mais qui s'est imposé. Ce qui est intéressant, c'est que dans les années 30, en Russie soviétique, oui. on a supprimé la semaine de 7 jours. On a introduit ce qu'on appelait « Nitrerivka », c'est-à-dire une semaine de 5 jours avec une journée de repos. Et ce système a fonctionné jusqu'au début des années 40. Donc pendant une dizaine d'années, il n'existait pas une semaine de 7 jours en Russie. Ce qu'il en est resté après la guerre, c'est une volonté quand même de transformer d'agir, de transformer le rythme hebdomadaire. Et donc, dans les démocraties populaires de l'après-guerre, on a essayé d'agir à la fois sur le rythme lui-même, donc sur le cadre temporel, en déplaçant par exemple le week-end, on avait les jours de repos déplacés sur les jours de la semaine, on allait au travail le dimanche, ou sur le contenu de ce rythme en travaillant sur les activités qui sont consacrées au repos dominical et qui donnaient un cadre. Par exemple, la messe qui était souvent déplacée sur les heures très très matinales, donc généralement avant 7h du matin, le dimanche, ou qu'elle soit déplacée sur la fin de l'après-midi, vers 5-6 heures du soir, et que la journée soit libérée pour d'autres activités, comme les travaux des champs, les moissons, ou les activités pour les jeunes, par exemple.
D'accord. Donc c'était à la fois pratique, mais est-ce que c'était aussi, par exemple, symbolique, c'est-à-dire de faire un peu contrepoids à la tradition catholique?
Il y a évidemment une volonté de lutter contre la religion, certes, mais aussi, et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de lutter contre une certaine manière de vivre le dimanche, qui n'était pas forcément liée à la religion, parce qu'il y a il y avait des activités qui étaient d'abord et pour une grande part un lieu de sociabilité.
Oui.
Et donc le régime essaye de remplacer ce lieu de sociabilité, parce que dans les villages, c'est généralement le seul endroit ou le seul moment de la semaine où toute la communauté se réunit, avant ou après la messe, où on va prendre un verre après, où on discute devant l'église. Donc remplacer ce lieu de sociabilité par d'autres lieux de sociabilité, des brigades de travail qui étaient organisées pendant le week-end. Donc c'est pas seulement une lutte contre la religion, mais une lutte contre des pratiques de sociabilité qui sont là depuis très très longtemps.
Quel rythme de travail entraînait les objectifs qui étaient fixés par le plan?
Ce qui est intéressant quand on regarde la planification socialiste, c'est que il y a au fond une idée de contrôle du temps. Si vous regardez bien les plans quinquennaux, ce sont d'abord les lois qui sont adoptées par l'Assemblée nationale, où on décrète prévisions de la production. Et en même temps, on décrète également les dépassements de ces objectifs. On fixe dans la même loi un certain objectif. Par exemple, avant la fin de l'année 1949, il va falloir produire, je sais pas, j'en vends 500 tracteurs. Mm-hmm. Et dans l'article suivant, on précise que il va falloir produire 600 tracteurs. On prévoit l'objectif et en même temps son dépassement. Dans cette manière de faire, il y a une idée de maîtrise, de dépassement de soi et de maîtrise du temps. Le temps est prévisible et le temps, si on le prévoit, peut être accéléré. Et pour moi, la planification, c'est essentiellement ça. C'est une volonté d'accélération du temps.
Comme le mentionne Roman Krakowski, les démocraties populaires ont pu, par certains aspects, devancer les pays occidentaux dans certaines réalisations sociales, comme par exemple les crèches et les maternelles, instaurées dès les années 1950. Mais les contradictions quotidiennes entre les idéaux du régime et sa pratique politique n'ont pu empêcher une désaffection de la société à son égard. Dès lors, le projet totalitaire du régime à travers le contrôle des paramètres espace et temps a échoué, mais n'en a-t-il pas moins laissé des traces dans la Tchécoslovaquie de l'après-communisme? La thèse de Roman Krakowski donnera sans doute des pistes à cette question, comme à beaucoup d'autres.